Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Invité de cette édition d'Escale, Abou Moussa, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA. Abou Moussa, c'est tout un combat. Combat contre les atrocités commises par les groupes armés, que ce soit au Soudan, en RDC ou en République centrafricaine. Cette semaine, j'ai fait une escale dans ses bureaux new-yorkais pour faire le point des derniers développements politiques et sécuritaires en Afrique centrale et particulièrement dans les zones affectées par l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Ce mouvement rebelle a été responsable de plus de 100 000 morts entre 1987 et 2012. Pendant la même période, il a aussi provoqué le déplacement de 2,5 millions de personnes, civiles en particulier. Aujourd'hui repliées dans l'impénétrable jungle africaine, ce mouvement d'à peine 250 hommes continue de commettre de nombreux crimes et de terroriser d'innombrables populations civiles dans la sous-région. Abou Moussa, bonjour.
Bonjour, madame.
Ils ne sont pas nombreux, ils sont au nombre de 250. Ils sont aujourd'hui éparpillés dans la jungle de la République centrafricaine, du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo. Ils veulent renverser le régime de Museveni en Ouganda. Ils veulent appliquer les 10 commandements de la Bible. Ils tuent, ils mutilent. Ils recrutent des enfants et ils massacrent des populations civiles. Ils s'appellent la LRA. Aujourd'hui, les Nations Unies ont établi un plan pour la mise en œuvre d'une stratégie régionale des Nations Unies pour leur traque. Où en est-on avec la LRA?
Merci, madame. Notre intervention, notre accompagnement de ce programme de la recherche de CONI, le chef de LRA, émane des directives que nous avons reçues du Conseil de sécurité qui nous ont demandé de soutenir les efforts de l'Union africaine. Parce que, en fait, c'est un programme, c'est une action de l'Union africaine que nous soutenons, faisant suite à la demande du Conseil de sécurité. Et depuis maintenant 2011, nous travaillons main en main avec l'Union africaine, d'où la nécessité de faire le tour, de mener d'abord une mission de sensibilisation politique vis-à-vis des pays affectés. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à 2011, les pays faisaient beaucoup de choses de façon singulière. Mais depuis 2011, nous avons introduit un élément plus important, c'est la coordination. C'est-à-dire que tous les pays concernés, les agences des Nations Unies, tout le monde maintenant, nous nous sommes retrouvés autour d'une plateforme, d'où l'établissement de la stratégie que nous avons introduite au Conseil, qui a été approuvée, adoptée. Et cette stratégie, à la lumière de la stratégie, on nous a demandé encore de traduire la stratégie en programme, ce que nous avons fait, qui est encore a été approuvé par le Conseil. Maintenant, il nous faut aller de l'avant pour la recherche des ressources, le financement pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces stratégies, tout le contenu de cette stratégie.
Qu'est-ce qui fait la force effroyable de la LRA? C'est le fait qu'ils se cachent dans des zones impénétrables de la jungle africaine. En quoi consistera cette stratégie en fait?
Jusqu'ici, nous avons eu des informations pas très sûres de la presse, des médias, mais je peux vous rassurer qu'il y a quelques mois en arrière, nous avons eu à nous entretenir avec un des chefs de la LRA, le monsieur Ocalam. Monsieur Ocalam, lui-même qui a été capturé par CONI quand il avait 19 ans, aujourd'hui, il a à peu près 50 ans, parce qu'au moment où nous l'avons rencontré, il avait 49 ans. Et il nous a donné les détails, comment ils s'organisent. Évidemment, il nous a dit qu'ils sont divisés en 10 groupes de 10, 20, pas plus, et éparpillés. Donc vous pouvez imaginer, vous ne pouvez, pour une région qui est aussi grande comme la France, deux fois la France, il est évident que vous ne pouvez pas mettre autant d'armées pour la recherche du groupe de 10 et 20. La population de LRA, c'est une petite population, mais l'impact est énorme. Avec 440 000 personnes maintenant qui sont à l'extérieur comme des réfugiés, des personnes déplacées, sans compter ceux qui sont encore dans les mains de la LRA, sans compter ceux qui ont été tués pour de bon, qui sont partis pour de bon. Donc l'impact négatif du comportement de Kony et ses collaborateurs sont énormes. Voilà pourquoi le monde entier se mobilise pour qu'on mette fin à cette atrocité.
Qui est lui recherché par la Cour pénale internationale. L'Ouganda, on a des soupçons que Kony et ses hommes se cachent en ce moment en République centrafricaine. Ils pourraient aussi être au sud de Soudan, vous allez nous le dire. Malheureusement, depuis le renversement du pouvoir en République centrafricaine par la coalition de la CELECA, l'Ouganda qui avait déployé 1000 hommes en République centrafricaine pour la traque de la LRA a suspendu ses activités, même si ce pays n'a pas encore retiré ses hommes. Les hommes sont sur place, repliés, sans doute dans leur bataillon. Pourquoi ?
Bon, d'abord, je voulais faire une précision sur l'intervention de l'Ouganda. L'Ouganda, je crois qu'il faut féliciter ce pays qui, comme nous le savons, n'a plus de LRA sur son territoire. Il pouvait dire, écoutez, je n'ai plus de LRA, allez-y, faites comme vous voulez, mais il participe et participe activement. Et grâce à eux, et certainement nous ne devons pas oublier les autres pays qui ont contribué les troupes. Et avec l'intervention de l'Ouganda, nous avons constaté les défections importantes depuis maintenant une année. Et l'Ouganda, c'est vrai que quand il y a eu le renversement du régime de Bozizé, ça a en quelque sorte ralenti les actions à la fois des Ougandais et les conseillers militaires américains. Ceci dit, je voudrais préciser qu'ils sont encore sur le terrain, ils se sont repliés à une localité qui s'appelle Obo. Et maintenant que nous avons terminé les consultations, nous avons fini avec le Conseil de sécurité depuis hier, notre intention avec l'Union africaine, c'est d'aller sur place, encourager les Ougandais de pouvoir retenir, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent remobiliser, à savoir la réunion de l'Union africaine avec les autorités centrafricaines il y a 2-3 semaines de cela, qui ont donné des assurances. Deuxième chose, la prise de position de l'Union africaine, parce que c'est une force de l'Union africaine, ce n'est pas une force ougandaise dans ce contexte. Donc il est question maintenant d'encourager les Ougandais de retourner sur le théâtre d'opération pour qu'ils puissent continuer. Il ne faut pas laisser l'espace à Kony. Laissant l'espace à Kony de se regrouper veut dire mettre en l'insécurité les pays voisins, même l'Ouganda, même le Sud-Soudan. Voilà pourquoi il ne faut pas du tout laisser l'espace. Il faut qu'on se remobilise pour la recherche de son comportement. Maintenant, vous avez parlé de où se trouve Kony. À vrai dire, je ne peux pas vous le dire exactement, mais le rapport de la presse parle de Soudan, du côté de Darfour, un endroit qui s'appelle Kafia-Fungu, quelque chose comme ça. Et puis, à l'intérieur de la RCA, nous ne savons pas exactement, mais nous menons des actions pour encourager les pays qui pourraient faciliter la présence de Kony de coopérer avec nous. C'est dans ce sens d'ailleurs que nous sommes partis au Tchad et nous avons reçu des assurances du gouvernement tchadien comme quoi si par chance Kony passe par le territoire tchadien, ils le mettront à notre disposition.
Alors justement, je voudrais un peu revenir sur cette parenthèse, plus qu'une parenthèse centrafricaine. Qui sont les interlocuteurs de l'Union africaine aujourd'hui et de l'Ouganda en République centrafricaine?
C'est le Premier ministre.
Même si on ne reconnaît pas en fait la prise de pouvoir par la coalition de la CELECA.
Oui, certainement. Les Nations Unies d'ailleurs travaillent avec le Premier ministre.
Ce qui est quand même une grande contradiction, vous ne trouvez pas, non?
Non, ce n'est pas une contradiction. Le choix du Premier ministre était issu de l'accord de Libreville. Donc, nous continuons à travailler sur la base de l'accord de Libreville. Et le problème, c'est reconnaître de plus en plus le monde entier est contre une prise de pouvoir par la force. Et il faut le démontrer. Donc, on doit travailler avec les autorités pour qu'on avance à la recherche de solutions définitives. Mais reconnaître, c'est une autre chose.
Justement, des dizaines de groupes éparpillés de la LRA qui terrorisent toute la région centrafricaine, mais on va rester un peu sur le dossier de la Centrafrique, un pays où la situation est vraiment chaotique depuis cette prise de pouvoir par la force, par la coalition. C'est les cas à Bangui. La situation humanitaire est désastreuse et beaucoup d'impact du déplacement des populations et des ex-combattants, l'avez-vous dit au Conseil de sécurité des Nations Unies le 29 mai 2013 sur les pays limitrophes.
Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé à Bangui, c'est regrettable parce qu'il y a eu un accord de Libreville en décembre qui a respecté, qui n'a pas respecté, mais il y a quelque chose qui n'était pas correct dans la mise en œuvre de cet accord, et ce qui a poussé les Séléka de reprendre les armes et arriver jusqu'à Bangui. C'est dommage parce que nous savons que si les forces de Séléka arrivent en grande pompe à Bangui, ça allait créer des chaos. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et je crois qu'il est d'abord temps que les autorités centrafricaines puissent faire quelque chose, évidemment avec le soutien de la communauté internationale. Je salue les efforts de la CEAC qui maintenant a l'intention d'augmenter le nombre de troupes de la MICOPAX RCA. Et on a vu maintenant ce qui s'est passé. Vous avez parlé des implications, des possibilités de crise humanitaire. Ça a déjà commencé. Il y a les activités économiques n'existent presque pas. Alors, avec le temps, si la situation reste le même, je pense que ce pays risque de subir une situation très catastrophique du point de vue population.
Qu'il s'agisse de toute façon de François Bozizé ou du régime en place en ce moment qui a pris le pouvoir par la force, ce ne sont pas les meilleurs élèves de la démocratie, bien au contraire, ils sont réputés, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour d'effroyables exactions aux droits de l'homme. Aujourd'hui, comment vous voyez une sortie de crise? On entend beaucoup parler des mécanismes régionaux, du renforcement des capacités de la CEIAC pour gérer les conflits et pour prévenir les conflits régionaux. Cela dit, tous les jours, il y a des mutilations, il y a des exactions aux droits de l'homme, des mouvements de population, des exécutions sommaires et des meurtres. Comment vous voyez un peu une possibilité de sortie de crise temporaire dans les semaines qui viennent?
Je pense que la CEAC a mis en place un mécanisme. Et je crois que c'est un mécanisme qu'il faut renforcer. Ce mécanisme s'est réuni déjà deux fois. Une fois à N'Djamena, deuxième fois à Brazzaville. Certainement, ils auront besoin de ressources pour pouvoir mettre la situation idéale en place. Et quand je dis la situation idéale, c'est la paix et la sécurité. À partir de là, les autres choses vont pouvoir venir les accompagner. Donc, il y a ce mécanisme qui a été mis en place avec la participation, évidemment, des Nations Unies, de l'Union africaine, la CEAC, l'Union européenne et autres. Et il faudrait que ce mécanisme puisse marcher, accompagner les autorités actuelles et qu'on arrête les exactions. Comme ça, la paix revienne, les populations reviennent et les commerçants reviennent et la vie active reprenne à Bangui.
Vous avez également évoqué, quand vous vous êtes adressé au Conseil de sécurité le 29 mai 2013, la question de Boko Haram avec aussi vos préoccupations en raison de la traque en fait par les autorités nigérianes de Boko Haram à Boyé, à Adamawa, plus loin même que ça, dans des endroits reclus qui arrivent jusqu'aux frontières du Tchad et du Cameroun. Là aussi, la situation humanitaire est inquiétante.
Oui, tout à fait. J'en parle à cause de retombées humanitaires au-delà du Nigeria, puisque je n'ai pas les chiffres aujourd'hui des nombres de réfugiés qui sont déplacés, qui sont rentrés au Tchad et au Cameroun. Moi, je pense qu'il est important que le gouvernement nigérien puisse établir l'ordre dans son pays. Mais évidemment, en le faisant, nous devons tenir compte aussi des implications sur la population. Donc, je fais allusion à cet aspect dans mon rapport au Conseil pour que tout ce que nous devons faire pour aider les populations déplacées doit être retenu, parce qu'à un moment donné, ces gens se sont déplacés, n'ont pas les moyens. Il faut que la communauté internationale, conformément à nos nos traditions, que nous puissions les aider à retourner chez eux.
Merci Abou Moussa.
Aujourd'hui, l'Afrique centrale, quel défi, quel combat ? Abou Moussa, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA, était l'invité d'Escale cette semaine. Merci à Carlos Messias d'avoir été aujourd'hui aux manettes. N'oubliez pas votre prochain rendez-vous d'Escale la semaine prochaine. Escale que vous pouvez réécouter en tapant radio.un.org/fr.